Bonjour, bienvenue dans notre émission Underscore sur Radio Méga. Je vois, dans ma boule de cristal, que désormais je pourrais vous demander de dire 33.
33 ?
Ah !
Eh bien Lisa, elle est bien coquine aujourd'hui. Bonjour Mému, bonjour Doudou, bonjour Maître Belle.
Bonjour Cécile.
Bonjour tout le monde.
Bonjour les éditeurs et bonjour à Agem qui sera dans notre émission aujourd'hui avec le sujet du jour sur les données de santé.
Bonjour.
Mais tout de suite, un peu d'actualité.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Disparition de David Bogg, co-inventeur d'Ethernet. Il avait 71 ans. Avec Bob Metcalf, ouais. Ils ont créé Xerox PARC, ce qui deviendra le standard d'Ethernet.
PeerTube sort en version 4.1.1, au menu notamment un lecteur vidéo encore plus pratique, surtout sur les mobiles, un système de plugins amélioré, de nouveaux filtres sur les résultats de recherche, des possibilités supplémentaires de personnalisation des instances.
10 ans de Raspberry Pi, l'ordi à la framboise fête ses 10 bougies.
La FSF a une nouvelle directrice, Zoé Koyman. Elle a été auparavant programme manager depuis 2019, organisant notamment Libre Planète, et elle est donc maintenant directrice exécutive de la Free Software Foundation.
Ah oui, c'est plus l'autre. Bref, la conversation. Oui, bien sûr.
Non, mais en fait, c'était plus lui depuis un moment.
Oui, la conservation généralisée des données de connexion est contraire à la Constitution. Suite à une QPC, le Conseil constitutionnel a donc décidé de suivre l'avis de la CJUE, sur l'article L34.1 du Code des postes de communication électronique, mais qui a malheureusement depuis été modifié par le Parlement, donc la version actuelle nécessitera probablement d'autres QPC pour être déclarée inconstitutionnelle.
Le Sénat adopte la proposition de mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques grand public. Le 24 février 2002, le Sénat a voté de façon définitive en deuxième lecture la proposition de loi. Reste à voir si ça sera aussi utile que le Nutri-Score.
Les éditeurs de navigateurs web veulent résoudre les incompatibilités. Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, ainsi que les sociétés de conseil ou de logiciels, Boku et Iglia, font cause commune autour de l'initiative d'Interop 2022 pour proposer une évaluation benchmark de la prise en charge des standards par différents navigateurs par le biais des tests automatisés.
Eh bien, c'est tout pour les actus.
On écoute Tankacha de Dentifrice. Et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour avec Agem sur les données de santé.
C'est un peu brut.
Ouais, alors, 10 secondes de blanc au début et puis...
C'est ça. Tant qu'achat de dentifrice, donc c'était une in vitro pour la Shadow Party 2022 qui aura bientôt lieu. Donc ça a été réalisé lors de la BCC Party 2022. Ça a fini troisième et c'était sur son Commodore 64.
Chouette. Hein. Et ben on passe au sujet jingle.
Le sujet.
Alors on est avec Agem. Bonjour Agem, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Oui, bonjour, je m'appelle Agem et je suis bénévole et membre de la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés à l'ère du numérique. Et j'ai aussi été pas mal bénévole dans des associations LGBT et féministes, notamment autour des questions de santé et de la santé des personnes trans.
Et alors, on a déjà parlé notamment du Health Data Hub, hein, et puis là, récemment, il y a donc mon espace santé qui arrive. Donc, on a décidé d'aborder toutes ces choses-là. Donc, déjà, le Health Data Hub, ou en français, la plateforme de données de santé, est-ce que tu peux nous faire un petit point dessus rapidement ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une plateforme qui a été créée officiellement fin 2019, le 30 novembre 2019. C'est une plateforme qui est faite pour faciliter le partage de données de santé, notamment pour la recherche. Donc l'objectif, c'est de rassembler énormément de données de santé à l'échelle nationale, à l'échelle française, et de rendre ces données accessibles à des entreprises privées qui vont faire avec de la recherche et du big data.
Ah, le big data.
Dans l'idée, le big data, c'est hyper problématique en fait. Ça veut dire que toutes ces données de santé sont directement transmises aux entreprises qui, en échange, ne donnent aucune garantie sur quoi que ce soit. Donc elles vont faire de la recherche sur nos données, potentiellement se faire de l'argent avec les résultats, et il n'y a pas de garantie de remise dans le droit commun, par exemple, d'une partie de leur recherche, ou de partage de ces résultats. Et puis, la problématique, ce n'est pas juste dans l'idée en soi de cet objectif, c'est aussi dans l'implémentation, à la fois juridique et technique. Sur le plan juridique, en novembre 2019, on a décidé qu'il fallait une plateforme. En avril 2020, on a sorti un décret qui précisait l'organisation et le fonctionnement de la plateforme, sauf qu'avril 2020, c'était en plein pendant le Covid-19. Et c'est un décret qui va être émis dans le cadre de l'urgence sanitaire. Et du coup, l'idée, c'est de créer le plus vite possible un entrepôt de données pour mettre toutes les données de santé de France dedans et qu'elles servent à la recherche contre le Covid-19. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment un décret d'urgence qui va aller extrêmement vite, y compris va nécessiter une implémentation extrêmement rapide, alors qu'on est sur des données qui sont hyper sensible, ouais, et sur lesquels il faut prendre énormément de précautions. Et puis enfin, il y a le point de vue technique, qui est encore un problème, encore une fois, puisque c'est Microsoft qui a été choisi pour héberger la plateforme. Microsoft, c'est une société états-unienne qui est soumise à la surveillance des services de renseignement américains.
Tout de suite, on est mis en confiance, quoi.
Ah bah tout de suite, forcément. Et ouais, c'est la CGE avec la Rechrems 2 en juillet 2020 qui montre que héberger les données des personnes européennes sur des machines qui appartiennent à des sociétés américaines, c'est contraire au RGPD parce que ça ne permet pas de garantir que ces données-là n'iront pas aux États-Unis. Et du coup, la CNIL est forcément à relever ça, à demander à ce que le Health Data Hub ne soit pas sur Microsoft. Donc, grand affolement du ministère qui s'engage à trouver une alternative dans les 12 ou 18 mois qui viennent, donc c'est-à-dire à peu près maintenant.
Voilà.
Maintenant, on est en pleine élection présidentielle.
On ne va pas
donc,
faire ça maintenant,
projet...
alors.
Bah voilà, c'est ça. C'est pour l'instant, on l'a un peu caché. Mais il y a quand même un nouvel appel à la concurrence qui vient de sortir là, il n'y a pas très longtemps, qui a été publié par le Health Data Hub. Et l'objet de ce projet, c'est un benchmark sur le potentiel économique des données de santé. Je pense que ça veut tout dire.
Ouais.
Ça veut dire qu'on va nous monétiser ?
Eh ben, en tout cas, on va faire un benchmark pour savoir combien ça coûte, combien ça rapporte surtout de nous monétiser.
Ouais. Au départ, le problème, c'était la vie privée, mais bon, non, c'est toujours pas dans le titre. et alors, il y a aussi en plus des partenaires privés. On a eu il y a quelques temps, c'était Cache Investigation qui avait parlé notamment d'IQVIA. Mais bon, ça mériterait sûrement un sujet entier, je pense. comment les entreprises privées s'approprient toutes ces données aussi.
Oui, et puis comment est-ce que le gouvernement a en tête, avant tout, de fournir des services aux entreprises avant de fournir des services aux citoyens français, quoi.
Tout à fait. Et puis alors, on a le DMP. Ça, on en avait parlé, parce que ça date, hein, le DMP. C'est le dossier médical partagé, ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que tu peux nous faire un historique pour savoir d'où on vient?
Ouais, tout à fait. Le DMP, tu l'as dit, c'est le dossier médical partagé. C'est un peu l'équivalent du carnet de santé papier qu'on a quand on est enfant. Mais cette fois-ci, c'est numérisé. Et du coup, comme c'est numérisé, c'est partageable aux médecins en ligne via le site Amélie, qui est le site de l'assurance santé. Et effectivement, c'est par un projet récent. Il a été lancé par un projet de loi en 2004 et une expérimentation en 2006. Des audits qui vont pas très bien se passer. Du coup, ils enterrent un peu le projet. Et puis en 2008, on relance le projet. Il est déployé en 2010 et il est disponible en 2011, wow. Donc 5 ans plus tard. Et ben là, on pourrait se dire que c'est terminé. Mais en fait, non. C'est un échec. C'est complètement un échec. Mais c'est un échec qui a coûté 500 millions d'euros. Ouais. Et du coup, on a un petit peu envie de faire en sorte que ça marche quand même. Du coup, en 2013, on annonce une V2. La V2 qui va être officiellement disponible en 2018. Donc, on a presque 15 ans qui se sont écoulés quand même depuis le début du projet. Et puis, en 2018, les personnes intéressées peuvent commencer à s'inscrire. En 2020, on a 9 millions de personnes qui ont ouvert un compte de dossier médical partagé. 9 millions de personnes sur la population française, c'est moins de 15% de notre population. Alors que l'objectif, c'était que tout le monde ait un dossier médical partagé. Donc, c'est pas vraiment un succès non plus.
Non.
Voilà.
C'est sûr.
Et puis, enfin, on parle du DMP, mais ça rejoint évidemment ce qu'on disait à l'instant sur le HDH et sur les partenaires privés. Parce que qu'est-ce que c'est que le rapport entre le HDH et le DMP? Ben, c'est que le HDH, le Health Data Hub, il est nourri avec les données du DMP et d'autres bases de données médicales.
Ouais.
Et donc forcément, quand on veut faire de la recherche, du big data, on a besoin de beaucoup de données, on a besoin que les gens centralisent leurs données dessus. Mais le DMP, ben, les gens ne l'utilisent pas parce que c'est un peu nul. Et du coup, ils ont sorti Mon Espace Santé.
Qui là va devenir un peu obligatoire, c'est le truc incontournable aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix.
Alors on a le choix, mais pas trop. Ouais. C'est quoi ce machin? Raconte-nous.
Alors Mon Espace Santé, c'est la suite du DMP, c'est un espace en ligne qui va contenir le DMP et aussi d'autres services, notamment un agenda, un chat et un App Store dont on pourra éventuellement parler aussi. Et comme c'est hyper important qu'il soit utilisé largement, l'espace santé va être créé pour tout le monde par défaut. Donc pour le DMP, le particulier devait demander à ouvrir son DMP. Avec Mon Espace Santé, on va avoir un compte et on pourra demander à le fermer. On passe d'une logique d'opt-in à une logique d'opt-out. Et donc là, on voit bien que sous prétexte que c'est une plateforme gouvernementale qui est hyper utile pour les citoyens, le gouvernement fait une exception sur le recueil du consentement. Donc, ils roulent complètement sur la philosophie du RGPD et sur le contrôle des gens sur leurs propres données. On a un outil qui se gargarise de donner plus d'empowerment aux gens sur leur parcours de soins et qui démarre avec la première action qui est de leur retirer le contrôle sur la création de l'espace. C'est quand même chaud. Il y a une phase pilote en 2020. Il y a 0,7% des gens qui se sont opposés à la création de leur espace santé. Donc là, on se dit c'est super, il y a 99% des gens qui sont pour. Sauf qu'en fait, il y a 5% des gens qui l'utilisent. Du coup, les 95% qui restent, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils ont un espace santé? Est-ce qu'ils ont reçu le mail? Est-ce que le mail est arrivé dans les spams? On ne sait pas.
Est-ce qu'ils ont déjà une adresse mail?
Oui, bonne question.
Alors, quand on n'a pas d'adresse mail, l'information est envoyée par courrier postal.
Oui, mais du coup, alors si on n'a pas d'adresse mail, pour s'y opposer, il faut envoyer un courrier papier aussi ou...
Ouais, c'est... Ah bah non, pour s'y opposer, on est en ligne.
Ah.
On peut s'opposer soit en ligne, soit par téléphone.
Ah oui, quand même.
Et si on n'a pas d'accès Internet ou pas d'ordinateur, il y a des centres de santé régionaux qui ont évidemment la capacité d'accompagner les gens.
Heureusement.
Bien sûr.
Ouais, mais cette question du consentement, ouais, c'est compliqué. Hein.
Oui, et elle se pose vraiment tout au long du parcours de soins sur cette plateforme. La plateforme roule complètement sur la notion de consentement. Toutes les données, par exemple, sont partagées avec le médecin traitant. Et ça, on ne peut pas s'y opposer. C'est obligatoire. Donc, on part du principe que toutes les personnes ont une bonne relation avec leur médecin traitant et que tout se passe bien. Puis après, il y a les autres médecins. En théorie, on doit pouvoir choisir si on donne accès ou non à l'espace santé au médecin, par exemple, à un spécialiste qu'on va voir, ou bien si on va à l'hôpital, on peut lui choisir de donner accès. Dans la réalité, c'est le médecin qui coche la case « j'ai bien demandé au patient ». Donc ça, ça se fait complètement du côté du médecin, il n'y a aucune confirmation côté usager. Et en fait, on a plein de professionnels de santé, au-delà d'être malveillants, ce qui est aussi une possibilité, mais tout simplement, les professionnels de santé, ils vont considérer que le simple fait d'avoir pris rendez-vous avec eux, ça équivaut à avoir consenti au partage de ces données. Aujourd'hui, on a des médecins qui ont des pratiques médicales pour lesquelles ils ne demandent pas le consentement alors qu'ils le devraient. Il y en a plein. Donc, il n'y a aucune raison de penser que sur le partage de données, tout d'un coup, ils vont se mettre à poser la question du consentement aux patients. On est dans une vision aujourd'hui qui considère les médecins comme des experts et qui savent mieux, plutôt que de considérer les patients comme des experts de leur corps, de leur santé et de leurs données. Mmh. C'est une vision qui est hyper paternaliste du système de soins et qui met tous les pouvoirs dans les mains des médecins, alors même qu'on a plein de scandales médicaux sur le non-respect du consentement et la discrimination médicale. D'ailleurs, les associations qui s'inquiètent le plus...
Excuse-moi de t'interrompre, mais si par exemple il y a des erreurs qui sont indiquées dans ce dossier, le patient, il ne peut même pas le savoir ?
Alors, le patient a accès à toutes les informations. En revanche, c'est le médecin qui met les informations dedans et qui peut les supprimer. Le patient, par exemple, ne peut pas supprimer des informations qui seraient sur l'espace santé. C'est entièrement le médecin qui fait ça.
Hmm. Ouais. Et donc, tu disais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont inquiètes de ça aujourd'hui ?
Bien sûr. Bien sûr. Et celles qui sont le plus inquiètes, ce sont les associations de personnes qui sont usagères du système de santé, notamment les associations de personnes trans, les associations de personnes séropositives ou VIH et les associations de personnes psychiatrisées, qui sont des domaines historiquement de discrimination médicale et de non-respect de la parole des patients et qui sont extrêmement inquiets.
Ouais, parce qu'ils ont eu un long combat pour que leur soit reconnu le droit de justement de pas faire les choses sans leur consentement, quoi. Enfin...
Absolument. Et surtout, je pense notamment aux personnes séropositives. Ce sont des personnes qui ont d'abord été expertes de leur maladie parce que les médecins refusaient de les soigner. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans la vision où c'est les médecins qui ont raison. Les patients ne savent rien. Les patients sont un peu bêtes, en fait.
Ça veut dire que finalement, si, mettons, tu es une femme, tu as eu recours à un IVG dans ta vie, ton médecin va le savoir.
Exactement.
C'est nul.
C'est inscrit dedans.
Et pour les enfants aussi, comment ça se passe pour les enfants ?
Alors pour les enfants, pour toutes les personnes mineures et les majeurs protégés, ce sont les ouvrants droits qui gèrent l'espace santé. Les ouvrants droits, en général, ça va être les parents des enfants, par exemple. Les ouvrants droits, ils ont accès à tout l'espace de santé. Donc on parlait de l'IVG. Quand une adolescente voudrait prendre rendez-vous pour une contraception, par exemple, sans en informer ses parents, ce qui peut être régulièrement le cas quand on a 16-17 ans, les parents seraient informés parce que le rendez-vous médical serait inscrit dans l'espace santé, l'ordonnance serait dans l'espace santé, etc. Pour l'IVG spécifiquement, ça fait partie des actes qui peuvent ne pas être mis dans l'espace santé pour les mineurs. Mais dans ce cas-là, il faut que le médecin, le professionnel de santé, propose à la personne de ne pas verser des informations dans l'espace santé. Donc déjà, il faut qu'il y pense.
Il faut qu'il
ait le temps
de poser la question.
Quand le mineur s'oppose à la question, il faut qu'il respecte cette opposition.
Ouais, et du coup, ça fait plein d'informations qui, bien sûr, vont rester sagement sur les serveurs du gouvernement, hein ?
Oui, alors le gouvernement, en soi, n'a pas de serveur, hein, donc il doit... nécessairement faire appel à des sociétés privées. C'est déjà le cas avec les sociétés qui développent l'espace santé. On a des gens comme Octo, Accenture, Atos qui sont en charge de ça.
Atos se charge de ça. Oh mon Dieu.
Des belles boîtes de notre équipe. Ouais. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que l'espace santé, ça intègre le DMP, ça intègre des services qui sont développés dans ce cadre-là, comme l'agenda et le chat, et puis ça intègre un App Store, une espèce de store d'applications, un endroit où on pourra sélectionner des applications et les plugger dans notre espace santé. L'exemple type, c'est une app de méditation, une app de suivi de pathologie, l'app de la montre connectée qui permet d'enregistrer le rythme cardiaque en direct et de le mettre au même endroit que les données de santé dans l'espace.
C'est génial ça.
Ouais, ça dépend que quand même le CG sur une montre, c'est pas le CG sur un vrai appareil de médecin. Enfin, c'est...
Ouais, mais ça peut donner des infos quand même. Hein, mais...
Oui, ou ça peut être le nombre de pages. J'avoue ne pas avoir de montre connectée, mais on m'a dit que ça faisait des choses formidables.
Ouais. Ah ouais. Et du coup, il y a déjà des applis qui arrivent sur ce fameux store.
Absolument, il y a eu. Alors, elles ne sont pas encore développées, mais il y a eu un premier appel, un appel à candidature qui a été fait en début d'année. On a déjà les noms des sociétés qui ont été retenues. Il y en a quelques-unes qui sont connues. On a des sociétés pharmaceutiques américaines, notamment, qui vont être bien contentes de pouvoir se pluguer à nos données pour faire de la recherche. On a Doctolib, la meilleure start-up de France, qui connaît déjà les rendez-vous médicaux de tous les Français, ouais. Hein, et puis le statut vaccinal de tous les Français. Donc, ça, c'est super.
C'est cool.
Puis on a des applications de téléconsultation, des applications d'intelligence artificielle pour travailler sur le big data, ouais. Des choses formidables. Ouais. On voit bien le lien entre les données de santé et les entreprises privées. Et au lieu, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au lieu d'avoir un service de santé publique qui met en place des outils pour améliorer le quotidien de santé des Français et des personnes soignées en France, à la place, on a un service de santé qui délègue à des entreprises privées le soin de développer un système. En échange, ces entreprises privées pourront accéder gratuitement à nos données. C'était déjà ce qui s'était passé quand Doctolib a pris en charge la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et c'est vraiment une délégation du pouvoir de l'État à des entreprises privées.
Ouais, bah moi, par exemple, pour ma première vaccination, j'ai attendu 4 jours. J'ai téléphoné pendant 4 jours à l'hôpital pour avoir un rendez-vous et ça sonnait dans le vide, quoi. Donc j'ai fini par aller sur Doctolib parce que c'était la seule possibilité, quoi. Donc c'est assez effrayant tout ça. Alors, donc on a dit qu'on pouvait s'y opposer, mais comment on fait concrètement ?
Alors concrètement, les espaces de santé sont en train d'être ouverts en ce moment. Donc on va tous recevoir, on a déjà reçu un mail de l'assurance santé d'Amélie qui nous prévient de l'ouverture du compte. Et à partir du moment où on a reçu ce mail, on a 6 semaines à compter de la notification pour s'opposer à la création de l'espace santé, soit en ligne, via le formulaire en ligne, soit par téléphone. Et puis une fois que c'est créé, il est encore possible de clôturer son compte, mais il faut faire hyper attention parce que si on décide de clôturer un compte qui a déjà été ouvert, par défaut, les données sont conservées pendant 10 ans. Donc il faut faire une démarche supplémentaire spécifique pour demander la suppression de ces données-là. Sinon, elles restent sur les serveurs.
Ah ouais, ouais, c'est plus une suspension qu'une fermeture, quoi.
Ouais, absolument.
Ça fait peur. Ouais, j'ai reçu le mail il y a quelques semaines, là, et puis j'ai fait la démarche l'autre jour. Et on arrive sur le site et en fait, le premier truc qu'on voit, c'est le bouton pour créer le compte. Et en fait, en scrollant tout en bas de la page, il y a « Refuser et créer ». Mais en fait, ça va sur le même formulaire et c'est après qu'on a le choix. Donc après, c'est plus clair. Mais c'est vrai que quand on arrive tout de suite sur la page, bah, on se dit, ouais, on sait de quel côté il penche, quoi.
Bah oui, c'est très clair. Hein. D'ailleurs, on a des conférences de presse de nos ministres qui sont absolument ravis de l'espace santé.
Eh ben oui.
C'est pas, en soi, c'est pas une démarche si néfaste que ça. Néanmoins, c'est les pratiques qui sont faites en confiant à des entreprises privées, en ne nous permettant pas de consentir. C'est toutes ces démarches-là, en fait, qui sont les plus problématiques. Non ?
Absolument, absolument. Mais c'est un choix de projet, en fait, de donner à chaque personne déjà un endroit où voir ses données de santé, où les rassembler. Il y a plein de gens qui aujourd'hui ont du mal à accéder à leurs données de santé parce que des fois les médecins ne les donnent pas, parce que les gens ne les transmettent pas, parce que c'est des vieilles données qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui. C'est hyper intéressant de ce que ça représente, d'empowerment des patients, d'avoir accès à ces données, d'avoir le contrôle dessus. Mais c'est penser dans une dynamique qui justement fait l'inverse de l'empowerment des patients.
Et ouais. Et ben merci beaucoup, Agem. Est-ce que les autres, vous avez encore des questions ?
Non.
J'ai là. Vous avez tout compris ?
Ah ouais, j'ai compris que au moins, si je ne connais plus mes dates de rappel de vaccin, les données de santé seront répertoriées dans mon dossier médical partagé.
C'est mon espace santé.
Ah, mon espace santé, pardon. D'ailleurs, c'est limite si après, si t'es pas vacciné contre le Covid, on va te chercher comme un pestiféré, non ?
Ah, peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est encore... C'est un fichage aussi, hein. Ça peut être vu aussi... Voilà, c'est pour ça que c'est important que les gens aient le choix et soient informés de ce choix-là, parce que si on leur fait à leur place...
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup, Agem. Et puis...
Merci à vous, c'était chouette de discuter.
Et puis, bah, on se retrouvera à l'occasion, éventuellement dans un événement de la Quadrature, parce qu'il y a des événements qui reprennent, genre les JDLL par exemple. Et tout.
Ouais, chouette.
On va pouvoir. Merci beaucoup.
On écoute une musique de No Other Medicine, hein, Find My On My Way, pour après passer à l'agenda. Ça s'invente pas. L'auteur s'appelle No Other Medicine.
Ah, c'est bien trouvé.
Find My Own Way. Donc, c'est une musique issue d'une démo. Je dis bien une démo. Qui était faite sur PlayStation 2. Donc, voilà. Une plateforme pas forcément très connue. Mais pour faire des démos. Hein. Néanmoins, voilà. On va passer à l'agenda.
Et ouais, qu'est-ce qu'on a ?
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Libre en fête continue. Tout le mois de mars, on fête le logiciel libre partout en France.
Libre Planète, l'événement de la FSF continue ce dimanche avec plein de conférences, donc les 19 et 20 mars en ligne.
Causerie, l'informatique, le libre et les associations. Quelle vision de nos pratiques numériques associatives dans le cadre de la journée consommer et coopérer autrement. Donc c'est le dimanche 20 mars à 14h au Cause Toujours, 8 rue Gaston Ré à Valence. Puis il y aura aussi un petit vide-grenier du voisinage et tout, ça peut être sympa.
Faut-il confier les radios de mamie à Microsoft et Doctolib ? Pour cette conférence, l'association 421 a le plaisir...
C'est 42L.
42L, pardon, a le plaisir de recevoir Juliette Alibert, avocate, et Adrien Parot, médecin et ancien étudiant de 42, tous deux de l'association, membres de l'association Interop. Donc c'est sur inscription pour les personnes extérieures à 42. Ce sera le mercredi 23 mars 2022 à 13h, école 42 à Paris.
Conférence et atelier sur la cybersécurité à l'occasion des Drome Digital Days. Conférence d'Axel Abattu, cybersécurité, prévention et gestion, de 9h à 10h. Atelier d'Axel Abattu, comment les hackers volent vos mots de passe. Ce sera le 24 mars de 11 à 12h. Donc c'est sur inscription au Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac, Valence.
Mange des pommes, soyez même pas peur, contribuez aux communes numériques. Wikipédia OpenStreetMap comprend les enjeux de la participation aux bases de données collaboratives et comment y contribuer à l'échelle de la vallée de la Drôme. Le jeudi 24 mars de 18h30 à 21h, WitFab Lab, WitCourt Comètre, 26400 créés.
Ouais, il a bien prononcé.
Bien.
International Hackerspace Open Day 2022.
Tu parles bien anglais.
Oui, sauf que c'est en France en plus. Donc pour cette édition 2022, nous proposons d'ouvrir nos portes et de labo le samedi 26 mars et aussi de faire un moment de rencontre et de convivialité sur la pelouse du square Léon Bourgeois face au biohackerspace Kawen Noz. Nous vous y attendons avec des tables, de quoi grignoter, des boissons à partager. Vous pouvez amener aussi vos grignotages et boissons. C'est samedi 26 mars, 14h à 17h, à Kawen Noz, 1 square Léon Bourgeois à Rennes. Alors c'est pour ceux qui sont loin.
Ah, c'est ça. Et ceux qui aiment bien les petites galettes bretonnes. Du lien et des liens. Alors, contrairement à ce qu'on a annoncé la semaine dernière, il existe un mois d'Améga.
Ouais, donc c'est le mois de mai. C'est Améga.
C'est ça.
On connaissait déjà le site H de Large Hadron Collider Destroyed the World Yet. Bon,
ouais.
C'est tout collé, c'est dur à lire. Mais il existe maintenant, Has Putin Destroyed the World Yet? Pour savoir si le monde a été détruit ou pas par un dictateur russe.
Oui, ça marche aussi.
Sur Arte, il y a des vidéos sur la procrastination. À voir absolument, surtout si vous avez un truc important à faire pour demain.
Parfait.
Ah bah oui, mais j'avais une émission, mais finalement... Alors, une interview aussi de Tim King, le créateur de l'Amigados.
La compilation Chiptune Carte Autisme vient de sortir.
C'est Chiptune for Autism.
Un guide de réduction des risques pour Telegram écrit par l'EFF à destination des Ukrainiens et des Russes notamment.
Un financement par...
Si je pouvais juste ajouter, ouais. Parce que puisqu'on parle de ça, il y a aussi actuellement des grosses mises en garde de Wikipédia envers les contributeurs qui seraient en Ukraine ou en Russie pour éviter qu'on s'en prenne à eux sur toutes les pages qui parlent de la guerre qui se passe actuellement.
Un financement participatif pour la seconde édition du livre Breaking the Borders sur l'Atari ST et la DemoSan.
Oh, ouais. Chouette. Astrologique, qui frotte la boule. At School, sur IRC, tu voyages dans les topics?
Codeur. Au matin, j'ai mal starté, je me suis levé et mon portable est tombé. J'ai la fracture numérique.
Atariste, le Falcon, c'est pas un...
Ouais, Sparrow. En fait, c'est le nom du prototype du Falcon.
Bien joué.
Musicien, t'as un date? Ah non, t'as un date.
Un DAT?
Ouais, un date.
Activiste, l'informatique, c'est pas toujours informatique.
Non.
Oui, l'informatique, c'est pas toujours automatique.
Web designer, je me suis mis au vert, j'ai commencé un site écolo, mais tu es daltonien.
Ouais, c'est ballot.
C'est ballot.
En tout cas, merci à Amy Auditeur de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Merci à Agem d'être parmi nous pour cette émission. Vous pourrez la réécouter aussi le samedi à 12h10 sur Radio Méga et sinon en podcast sur underscore.radio.fm. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Je crois que Matt Bell va encore faire un truc sympa.
Ah.
Mais je vous en dirai pas plus.
Ah bah non, faut attendre la semaine
prochaine.
Sinon,
je spoil.
Voilà.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye.
Salut.